Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. On nous dit que la planète se réchauffe et qu'il y a urgence. On nous dit aussi que les réserves en combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, sont loin d'être épuisées. Il ne faudrait donc pas attendre qu'il n'y en ait plus pour apprendre à s'en passer. Mais alors, sur quelle nouvelle source d'énergie compter? À quoi pourraient bien carburer nos sociétés en 2050? Qu'est-ce qui sera le plus dur à faire évoluer, les technologies ou les mentalités? Pour en parler, Geneviève Ferron-Creuset, consultante sur les sujets d'écologie industrielle, de développement et de finances responsables. Vous avez publié Le crépuscule fossile chez Stock. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous, Pierre Papon, physicien, spécialiste de physique thermique et ancien directeur général du CNRS. Vous venez de publier 2050, quelles énergies pour nos enfants, aux éditions Le Pommier. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous dire l'un et l'autre comment vous envisagez le monde de l'après-pétrole et par quelles énergies nous pourrions remplacer les énergies fossiles à l'avenir. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. Voilà pour le thème de cette Tête au Carré réalisée par Lola Costantini et préparée par Thomas Lehété.
Cri d'alarme dans le monde, les puits de pétrole vont tarir, ou plutôt leurs réserves ne sont pas éternelles. La crise des carburants qui atteint aujourd'hui la France n'est qu'un écho de celle beaucoup plus vaste qui menace le monde entier. Le monde est-il appelé à manquer des carburants liquides sur l'utilisation desquels s'est basée notre civilisation actuelle? Le pétrole va-t-il manquer? Et le monde demain va-t-il retourner au mode du passé devant ses puits vides?
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Nous étions en 1948. À cette époque, on s'inquiétait déjà de savoir ce que nous deviendrions sans pétrole. Geneviève Ferron-Creuset, votre livre parcourt plus d'un siècle de règne sans partage des énergies fossiles. À vous lire, le pétrole est ce qui est arrivé de plus important au cours du XXe siècle.
Oui, on peut dire, sans rentrer dans trop de détails, que le pétrole a été la glaise du monde matériel. C'est-à-dire, c'est l'énergie structurante, c'est celle qui a créé le cadre économique, industriel, technologique et géopolitique dans lequel nous nous trouvons encore. Et c'est cette énergie qui a une plasticité extraordinaire, qui a permis des usages quasiment qui sont rentrés dans tous les compartiments de notre vie. Bon, on pense bien sûr au carburant, mais c'est aussi les dérivés du pétrole qui nourrissent toute la pétrochimie. Donc, on les trouve dans les engrais, dans la pharmacie, dans la pharmacopée, dans absolument tous les composants. Voilà, là, dans ce studio, on pourrait peut-être se poser la question de ce qui a été créé à partir de dérivés du pétrole. Donc, c'est une énergie qui caractérise complètement le XXe siècle et, à mon avis, et on en discuterons ensemble avec Pierre Papon. Je pense que c'est une énergie qui va nous accompagner encore durablement dans cette moitié du XXIe siècle.
Et alors, pour combien de temps encore va-t-elle nous accompagner? Pierre Papon, a-t-on une idée de l'état des réserves en pétrole, en gaz et en charbon qui restent sous nos pieds, encore à exploiter?
Disons, pour schématiser, mais Geneviève, je prends sous son contrôle, pour le pétrole, 50 à 60 ans, avec peut-être 10 années de plus si on compte le pétrole de schiste. Pour le gaz naturel, peut-être 60 à 80 ans, 10 ou 20 années de plus avec le gaz de schiste. Et pour le charbon, probablement 100 ans, probablement 120 ans. On parle que des énergies fossiles là, qui représentent 80% de l'énergie primaire de notre panier énergétique mondial.
Alors, Geneviève Ferron-Creuset, quand on entend ça, quand on nous dit qu'il y a encore 100 ans de charbon à exploiter sous nos pieds, on se dit, et vous l'écrivez dans votre livre, il y a largement de quoi faire exploser la bombe climatique.
Oui.
C'est votre expression.
Oui.
C'est-à-dire que si on utilise, si on consomme toute cette énergie, alors là, vraiment, on dépasse largement les 2 degrés. Là, on atteint quoi? Qu'est-ce que nous disent les experts du climat?
Alors, les experts du climat nous disent déjà que l'on a fabriqué quasiment 1 degré, donc depuis 150 ans. L'accord de Paris qui nous demande de nous contenir, enfin de contenir le changement climatique autour de la barre des 1,5 degrés, j'ai presque envie de dire que c'est un vœu pieux, puisque de toutes les façons, compte tenu de l'inertie des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère, on est clairement sur une trajectoire à 2 degrés. Et c'est sur cette trajectoire à 2 degrés que l'on peut envisager peut-être des politiques d'atténuation, avec, si possible à la clé, des politiques très volontaristes de réduction de gaz à effet de serre. Mais il est évident que quand on regarde tous les scénarios, d'ailleurs les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie ou les scénarios de l'OCDE sur les taux de croissance mondiaux, à l'échelle mondiale, pardon, eh bien, on voit qu'on n'est pas du tout dans cette trajectoire des 1,5 ni des 2. On est plutôt sur des trajectoires où on peut, en fait, on est en terrain incognita parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On n'est pas du tout dans un système linéaire, il n'est pas prédictif. Mais ce que l'on sait, c'est que si on utilise ces 80% d'énergie primaire qui sont, encore une fois, pas chères à exploiter, qui sont sous nos pieds, qui ont déjà des modèles économiques extrêmement performants et qui nous nourrissent tous les jours, donc on a une tendance naturelle à peut-être ne pas trop se casser la tête, parce qu'on est dans une économie paresseuse, eh bien oui, on va faire exploser la bombe climatique, ça c'est sûr. Donc il faut trouver des stratégies de substitution, d'atténuation, et peut-être penser autrement notre rapport à l'énergie. C'est ce que disait Pierre Papon sur aussi les usages.
Il va donc falloir apprendre à se passer des énergies fossiles avant qu'elles ne viennent à manquer. Vous êtes d'accord avec...
Oui, je suis d'accord avec ce diagnostic. Un crépuscule des énergies fossiles, hein, c'est le titre du livre de Geneviève. Alors je dirais crépuscule avec aussi des incertitudes. Des incertitudes pour l'utilisation du pétrole. Il est possible, et l'Institut français du pétrole et l'Agence internationale de l'énergie ont jeté un cri d'alarme en début d'année en disant « si on continue à sous-investir dans l'exploration et l'exploitation du pétrole, on risque sans doute un choc pétrolier qui ne sera pas celui de 73 d'ici 3 à 4 ans. » Parce que on est dans une transition et qu'elle va prendre quelques années, probablement même quelques décennies. Et donc, il faut trouver une alternative ou des alternatives à ces énergies fossiles pour éviter de rentrer dans un mur climatique.
Eh oui. Alors, on arrive au cœur du sujet de notre émission d'aujourd'hui, Pierre Papon. Quelles sont aujourd'hui les alternatives qui vous semblent les plus crédibles, les plus mûres pour entamer cette transition énergétique?
Alors, d'abord, miser sur l'efficacité énergétique. On utilise encore des énergies fossiles, on l'utilisera encore quelques années, mais il faut essayer de faire des économies d'énergie, par exemple dans les bâtiments, qui représentent en France 40% de notre consommation d'énergie. On peut chauffer ces bâtiments, comme ici, je crois, avec du géothermique, hein, comme à la maison de la radio, mais quoi qu'il en soit, au-delà de l'efficacité énergétique, il faut sans doute miser sur des énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, en particulier, et même majoritairement.
Aujourd'hui, ce sont pour vous l'éolien et le solaire qui sont les plus mûrs.
Oui, qui sont les plus mûrs, mais pas encore totalement rentables, loin de là. L'éolien l'est presque, probablement l'est-il en Allemagne du Nord et au Danemark. En France, l'éolien terrestre sera probablement rentable d'ici 2020. Le solaire n'est pas encore complètement rentable, je dirais, sous nos latitudes. Et puis, il y a quand même aussi l'énergie nucléaire, hein, qui rentre dans le débat. Si on peut le faire, si on a la capacité technique et industrielle comme en France, et s'il y a une acceptabilité du nucléaire, il faut aussi mettre le nucléaire dans ce panier-là.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le nucléaire, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, mais restons déjà sur l'éolien et le solaire. Vous nous dites, sur l'éolien, d'ici 10 à 20 ans, ce sera rentable. Pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui?
Je dis, pour l'éolien terrestre, je dis 2020.
Ouais.
Ah oui, 2020-2025. L'éolien offshore, probablement plus loin, 10 ou 15 ans. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher. Il faut tirer des câbles depuis les plateformes où il y a des éoliennes sur la côte. Mmh. Mais les scénarios comme ceux de l'Agence internationale d'énergie qu'a cité Geneviève, eh bien, mettent en tête l'éolien. Disons deux fois plus d'éolien en 2040-2050 que de solaire, soit le solaire photovoltaïque avec les cellules solaires, soit ce qu'on appelle le solaire à concentration, on envoie le rayonnement solaire sur une tour, je simplifie les choses, on vaporise un liquide et on fait marcher une turbine. Donc ça
c'est une centrale, qui permet de concentrer les rayons lumineux
sur une tour, soit à l'aide de cylindres paraboliques sur des tuyaux dans lesquels on fait circuler de l'eau un liquide que l'on chauffe. C'est ce que font les Marocains à Ouarzazate, notamment.
Ouais. Ce ne serait pas vraiment envisageable à nos latitudes, ce type de centrale?
Non, Ouais. Peu rentable sous nos latitudes, peut-être dans le midi de la France, en Espagne ça l'est, en Andalousie, sud de l'Italie, en Californie.
Geneviève Ferron-Creuset, vous êtes d'accord avec cette idée que pour l'instant les énergies alternatives les plus matures, c'est l'éolien et le solaire ?
Oui, alors c'est l'éolien et le solaire. Je rajouterais en fait que quand on parle d'énergie renouvelable, il faut aussi penser une adaptation du cadre géographique. En fait, c'est un bouquet d'énergie qui sont plus ou moins adaptées à la géographie, à la géologie du pays. Par exemple, l'Islande, on peut dire, considérer que l'Islande, eh bien, c'est de la géothermie, c'est un volcan, l'Islande. Donc la géothermie, eux, le problème de transition énergétique, ils l'ont réglé. Mmh. On peut parler aussi de l'hydraulique. On peut dire que l'hydraulique, un pays comme la Norvège ou des pays qui bénéficient d'énormes capacités hydrauliques sont déjà, de fait, dans un mix énergétique renouvelable. Donc c'est plutôt des bouquets d'énergie qui vont s'adapter à la situation géographique, géologique et climatique. Comme vous l'avez dit, évidemment, à Ouarzazate, Mazem, au Maroc, exploite une centrale solaire extraordinaire. Je crois que c'est même la plus grande du monde, en tous les cas. Et donc, ce sont des énergies qui, voyez-vous, ne peuvent pas remplacer l'extraordinaire plasticité du pétrole ou des énergies fossiles. Mmh. Donc, on voit bien que c'est extrêmement... D'abord, il faut y aller. Alors là, il faut absolument y aller. Mais on voit bien qu'on est dans une période de transition où il va falloir faire décroître ces énergies fossiles qui ont des modèles économiques et sont extrêmement séduisants parce que c'est amorti, nonobstant ce que vous avez dit sur aller chercher du pétrole de plus en plus profond, etc. Mais une centrale thermique à charbon, excusez-moi, mais c'est amorti, c'est un modèle économique qui est parfaitement maîtrisé. Et ce qui pose problème, c'est comment sur la même plaque, ajuster un mix énergétique renouvelable avec un mix énergétique thermique, voire nucléaire. Et donc, on a des soucis d'ajustement. Et cela pose des questions, bien sûr, de coûts, de subventions. Mais je pense que, de toutes les façons, c'est un modèle dans lequel les Européens se sont déjà engagés massivement.
Comment arriver à se passer du pétrole? Quelles seront les énergies de demain? Et puis peut-être celles d'après-demain aussi. On va envisager des ruptures technologiques peut-être plus drastiques. On en discute cet après-midi dans La Tête au Carré. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no.
c'était Passion Fruit Drake sur France Inter dans La Tête au Carré.
S'il a pu mettre sur pied une cellule solaire aussi efficace, il n'y a plus de crise d'énergie.
Je m'en avais déjà fait part. Là où il est rare, il n'y a plus de pétrole. L'uranium présente trop de dangers. La géothermie et l'énergie marémotrice sont bien chères. Où est le Sol-X actuellement?
C'est le Sol-X agitateur, la seule cellule actuellement capable de convertir les radiations solaires en courant électrique. Et cela à l'échelon mondial. Et ça n'est pas plus gros que ça.
Ceci est vraiment très excitant.
Je vois l'œil interrogateur de notre invité. Non, ce n'est pas un document scientifique. C'est un extrait d'un James Bond, L'homme au pistolet d'or, 1974. On s'intéresse aux énergies de demain dans La Tête au Carré, en compagnie de Geneviève Ferron-Creuset, auteur du livre Le crépuscule fossile chez Stock, et Pierre Papon, qui vient de publier 2050, Quelles énergies pour nos enfants, aux éditions Le Pommier. Alors, toutes les énergies renouvelables, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins directement justement de l'énergie solaire, Pierre Papon.
Dans une certaine mesure, le soleil déplace les masses d'air et donc le vent pour les éoliennes, il irradie les cellules photovoltaïques, il envoie du soleil sur une tour pour faire vaporiser de l'eau au Maroc, etc., etc.
Quand on fait bouger la marée, on utilise le courant, c'est de l'eau qui a été...
Oui, alors, la marée, il y a quand même un effet, si je puis dire, pour parler simple, gravitationnel.
Ah oui, aussi, c'est vrai.
Un effet gravitationnel, le rôle de la Lune, du Soleil joue. Ici, dans cette maison, je ne sais pas si c'est bien chauffé, mais en tout cas, c'est une ressource géothermique qui a un aquifère qui est chauffé par, je dirais, le rayonnement qui vient du centre de la Terre, probablement la radioactivité d'ailleurs.
Bon. Ouais. Alors, vous citez dans votre livre, Pierre Papon, vous classez les filières du renouvelable en 5 catégories. Il y a l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la bioénergie et les filières marines et géothermiques. Une fois qu'on a dit ça, on a tout ce dont on dispose en matière d'énergie renouvelable à disposition.
On a toute la palette.
Voilà, toute
on a toute la palette. Le géothermique n'est pas renouvelable. Je pense que ça, c'est durable ici pendant des décennies à la maison de la radio, mais il est pas. C'est une énergie qui va s'épuiser. Oui. Le solaire, on en a pour quelques milliards d'années.
Oui, c'est ça. Donc,
mais on a toute la palette. Oui. On a toute la palette. Et là, je crois que c'est Julien qui le disait. Il faut tenir compte aussi pour l'utilisation de la palette, je dirais, de la contrainte géographique. Au Maroc, il y a du soleil. Au sud de l'Espagne aussi. Ici, au nord de la Loire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de soleil, mais enfin, il y a une luminosité, une intensité inférieure. Donc, il faut à celle que l'on trouve dans le sud de l'Europe. Donc, il faut tenir compte des contraintes géographiques.
Alors, quels sont les rendements, ou en tout cas la quantité, la proportion d'électricité produite par ces énergies renouvelables que l'on peut envisager dans les années à venir ?
Aujourd'hui, je prends l'exemple, simplement le cas de la France, nous en sommes à 60, pour l'électricité bien entendu, oui. 75% de nucléaire, 12 ou 13% d'hydraulique et 3-4% d'éolien et de solaire. Bon. Les scénarios pour tenir compte en particulier de la contrainte climatique, réchauffement climatique, celui qui est le plus volontariste de l'Agence internationale de l'énergie, pense qu'il est possible d'avoir, disons à l'horizon 2040-2050, 30% d'énergie renouvelable pour la production d'électricité. D'autres scénarios sont beaucoup plus volontaristes.
Oui. Vous dites l'ADEME, donc là on est en France, l'Agence pour l'environnement en France, qui envisage carrément le scénario 100% d'électricité produite par des énergies renouvelables. Alors ça, Geneviève Ferron-Creuset, ça vous semble complètement utopique ou pourquoi pas ?
Disons que... Oui, ça me semble utopique, mais ça me semble intéressant parce que c'est quasiment une provocation. Enfin, c'est une provocation dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est un questionnement. C'est un miroir qu'on nous tend. Il nous dit, bon, à supposer qu'on soit capable d'avoir une politique publique extrêmement volontariste, à supposer que l'on puisse investir massivement, à supposer que l'on puisse régler la question de la transition, enfin, en tous les cas, du démantèlement de nos centrales nucléaires, à supposer que nous fassions tout cela avec un prix compétitif à la fois pour les ménages et pour les industries, à supposer que les usages se modifient radicalement, notamment avec l'usage de la voiture électrique, à supposer. Voilà.
Ouais. Donc, il y a beaucoup de si quand même.
Il y a beaucoup de si. Donc on pousse le curseur très loin, on pousse les contrastes très loin et on arrive à ce scénario qui est 100% d'énergie renouvelable. Je pense qu'il y a quand même, le diable étant dans le détail, là c'est même pas des détails, il y a quand même de sacrés cailloux dans notre chaussure avant d'arriver et de cheminer, je vais dire, sereinement sur ce chemin. Mmh. Et c'est une utopie, mais comme toutes les utopies, elle a le mérite aussi d'offrir une trajectoire et une perspective.
Alors quelles sont les limites des énergies renouvelables actuelles? Peut-être que les questions de nos auditeurs vont vous permettre de les développer un peu. Larry, par exemple, vous dit, par rapport à l'éolien et au solaire, n'y a-t-il pas un enjeu autour du stockage de l'énergie? Pierre Papon, est-ce que c'est pas l'un des verrous technologiques à faire sauter? Ces énergies sont intermittentes et on ne sait pas bien stocker l'énergie aujourd'hui.
Oui, je répondrai à notre auditeur vous parliez tout à l'heure, il y a des si. Je dirais, il y a un si majeur qui est le stockage de l'électricité. Mmh. On sait stocker l'électricité indirectement avec des barrages. Bien. Mais tout le monde n'a pas des montagnes à sa porte pour construire des barrages. Donc ce problème du stockage de l'électricité en particulier est un verrou majeur pour la production électrique par des énergies renouvelables et aussi, bien entendu, pour l'usage très important ou massif, si je puis dire, de la voiture électrique. Donc, je réponds à notre auditeur, oui, tout à fait, c'est un verrou majeur à faire sauter dans les 10 ou 20 ans qui viennent.
Alain vous dit, l'éolien et les cellules photovoltaïques demandent des métaux rares pour être efficaces. Quid des réserves de ces métaux à l'avenir? Je crois aussi des terres rares, hein, c'est ce qu'on appelle les terres rares. C'est vrai qu'on parle toujours d'énergie renouvelable, mais pour les construire, les matériaux sont finis, eux.
On a évoqué en début d'émission les ressources en énergie fossile. On a dit pas de souci à l'horizon 80-100 ans. Idem pour l'uranium, on peut dire 80 ans de réserve. Mais c'est vrai qu'on a besoin de métaux rares, en particulier de terres rares, qui sont toute une série, une espèce chimique, disons, de métaux. Utilisés, je prends un exemple, le néodyme, qui est une terre rare, qui est utilisée pour faire des alliages, pour les aimants, des turbines, des éoliennes, voire des aimants, des moteurs électriques de voitures. Et là, on a un souci, effectivement, à horizon de 20 ou 30 ans, d'exploitation de ces terres rares. Il faudra probablement les recycler. Pour l'heure, il y a un monopole dans la production des terres rares de la Chine. Ils n'ont pas le monopole des réserves. Il y a des réserves réparties ailleurs dans le monde. Mais c'est un véritable souci. On peut dire la même chose pour les lithiums des batteries lithium-ion de nos ordinateurs portables et voitures électriques. Aujourd'hui, pas de souci à avoir. Il y a du lithium qu'on peut récupérer au Chili, en Argentine, dans des lacs de désert qui sont desséchés, etc. Mais si ça se développe énormément, la voiture électrique, par exemple, le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, 500 millions de voitures électriques en 2050, ce qui est énorme. Là, il y aura un problème d'approvisionnement en lithium.
Allez, on passe, parce qu'il faut évidemment aller très vite dans cette émission, on passe aux ruptures technologiques un petit peu plus importantes, un petit peu plus drastiques. Il y a par exemple ce rêve de maîtriser un jour la fusion nucléaire. J'ai pas dit la fission hein, que l'on maîtrise déjà. La fusion nucléaire, le projet ITER, petit flashback, nous étions en 2005.
C'est officiel, la France accueillera le réacteur expérimental nucléaire ITER à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Les partenaires du projet ont signé un accord ce matin à Moscou. ITER, c'est un programme de 10 milliards d'euros étalé sur 30 ans.
Ici, 34 pays représentant plus de la moitié de la population mondiale ont uni leurs forces pour tenter de reproduire le soleil sur Terre.
Fournir à l'humanité la technologie qui lui permettra d'accéder à des ressources énergétiques à la fois propres et inépuisables, tel est l'objectif ambitieux du projet ITER.
Une fois achevé d'ici 20 ans, il pèsera 3 fois la tour Eiffel et occupera une surface équivalente à 60 terrains de football.
Un projet pharaonique, très ambitieux. Hein, le lancement officiel datait de 2005, je le disais. Alors 12 ans après, où on en est des espoirs suscités par ITER, Pierre Papon?
Alors, c'est un projet, je ne sais pas s'il est pharaonique, mais enfin, c'est un projet très important par les sommes engagées. Aujourd'hui, environ 18 milliards d'euros. Horizon des expériences avec les atomes de deutérium et tritium vers 2032. Là, l'horizon, il se décale assez souvent. Et ça fait 20, qu'est-ce que je dis, 50 ou 60 ans qu'on compte sur la fusion thermonucléaire. C'est une expérience importante. Et probablement vers 2040, on saura si on peut compter sur la fusion thermonucléaire pour produire de l'énergie et de l'électricité.
Geneviève Aferon-Creuset, votre avis sur ITER, est-ce qu'on court après une chimère? Est-ce que ça vaut le coup de tenter de mettre tout cet argent, 35 pays aujourd'hui qui sont associés pour un jour peut-être maîtriser la fusion?
C'est intéressant ce que vous dites sur l'argent, parce que en vous écoutant, je me disais, mais déjà, est-ce qu'on est conscient de l'argent que l'on dépense simplement en subventionnant les énergies fossiles encore aujourd'hui? On a des ordres de grandeur qui sont assez hallucinants, de l'ordre de 500 milliards par année. Enfin, en 2015, je crois qu'on avait ce chiffre-là. Et donc, on voit que ce budget-là, donc la subvention aux énergies fossiles, c'est pour aller les chercher ailleurs, c'est pour permettre aux ménages de pouvoir les acheter. Enfin, et donc, cet argent qui est dépensé pour maintenir un cadre énergétique qui nous amène clairement sur la voie du changement climatique, eh bien, si on pouvait déjà le mettre ailleurs, ne serait-ce que dans la recherche pour faire sauter les verrous technologiques que l'on a évoqués, ou simplement peut-être aussi dans des programmes de santé et d'éducation. Donc, vous voyez, déjà, pour répondre à votre question, alors, est-ce que c'est raisonnable ? Eh bien, ITER, enfin la fusion nucléaire, c'est l'énergie des étoiles. Voilà, quand on regarde la guerre des étoiles, eh bien quand on voit tous ces vaisseaux qui se propulsent, eh bien voilà, c'est une énergie infinie, gratuite. Alors gratuite tant que le soleil y pourvoira, mais on a peut-être quelques 4 milliards d'années devant nous. Donc oui, ça vaut la peine, mais on est encore rattrapé. Je veux dire, l'horloge climatique est en marche. Donc peut-être que commencer à penser sobriété énergétique, penser efficacité énergétique, penser renouvelable. Voilà, il faut absolument réduire aussi nos consommations et faire la chasse à ce gaspillage. Peut-être passer vers une économie plus circulaire. Vous parliez, Pierre, de recycler les métaux rares, etc. Oui, il faut arrêter d'être dans cette logique de prédation. Le stock de matières premières, maintenant, il n'est plus sous terre, il est devant nos yeux. Voilà, quand on passe devant une voiture, devant un bâtiment. Et donc peut-être imaginer déjà faire sauter les verrous psychologiques qui nous empêchent de voir cette évidence.
C'est ça. Il n'y a pas que des verrous technologiques, il y a aussi des verrous psychologiques, des mentalités à faire évoluer. On va en parler dans un instant et vous allez répondre aussi aux questions des auditeurs qui sont arrivés sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Depuis la première lampe à pétrole, l'or noir règne sur la vie des hommes, toujours rapide à s'enflammer pour des idoles. Mais la roche tarpéienne est proche du Capitole. Et demain, ce liquide huileux ne sera peut-être plus qu'une curiosité dans des régions qui n'auront pas su, à temps, profiter de sa gloire. Le pétrole est venu de la terre. Bientôt, il retournera à la terre.
Some strong man to hold on to. I want
Kelly Muscles, c'était Diana Ross sur France Inter dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré, Daniel Fievé.
Geneviève Ferron-Creuset, auteur du livre Le Crépuscule Fossile chez Stock, et Pierre Papon qui vient de publier 2050. Quelles énergies pour nos enfants aux éditions Le Pommier sont tous les deux nos invités. On discute avec eux de ces énergies du futur, de demain, qui pourraient venir remplacer les énergies fossiles. David, qui nous écoute attentivement, nous envoie cette question. Et les centrales à thorium au sel fondu, on en parle? Point d'interrogation.
Oui, David, on peut en parler. On a évoqué à un instant la fusion thermonucléaire, qui reste un pari scientifique et technique. Là, il s'agit de fission avec le thorium. Il y a une alternative à l'uranium ou au plutonium, des centrales actuelles, françaises, américaines, chinoises, etc., qui sont les centrales utilisant un autre combustible fossile, un autre combustible nucléaire, le thorium. Le thorium a l'avantage d'avoir des réserves très importantes, hein, environ trois fois celle de l'uranium, notamment en Inde.
Alors, est-ce qu'il fait des déchets radioactifs, le thorium aussi?
Il fait des déchets, je dirais tout le monde fait des déchets.
Ouais, enfin, les déchets radioactifs.
L'intérêt, disent les partisans de cette filière, qui a déjà été testée aux États-Unis dans les années 70, pour faire par parenthèse un moteur d'avion. Enfin, il fallait là pas vouloir appliquer le principe de précaution. Bon, mais je ferme la parenthèse, cette filière aurait l'avantage d'être plus sûre, parce qu'on utiliserait effectivement en même temps un mélange, je simplifie les choses, du combustible et du fluide caloporteur qui extrait la chaleur. Et puis elle a un autre avantage important, et ça quand on parle du nucléaire, il ne faut pas l'oublier, elle serait non proliférante. C'est-à-dire qu'il serait extrêmement difficile avec le matériau de la centrale de fabriquer des bombes atomiques. Pour l'instant, il y a...
Pourquoi on n'y va pas alors si c'est si
l'Inde
formidable?
L'Inde travaille dessus, la Chine travaille dessus, les États-Unis vont sans doute reprendre des travaux sur le thorium. En France, le commissaire énergie atomique est assez réticent, mais il y a un laboratoire de Grenoble, du CNRS, qui travaille en liaison avec le CEA pour modéliser ce type de réacteur.
Geneviève Ferron-Creuset, le thorium et le nucléaire, que Pierre Papon nous a dit pour le moment, c'est une solution à ne pas écarter tout de suite. Vous partagez son avis sur le nucléaire?
Alors sur le nucléaire, moi je dirais simplement ceci, c'est que je pense que d'abord c'est une énergie qui est peu présente dans le mix énergétique international, hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre de 7%, vous me corrigerez Pierre si je me trompe. Donc pour moi le nucléaire est une énergie du présent, n'est pas une énergie du futur. Dans la mesure déjà c'est une énergie non renouvelable, hein, qui repose sur l'uranium. Mais c'est aussi le fait que la production de déchets nous renvoie quasiment en des temps géologiques qui me rappellent d'ailleurs la durée de vie de certains gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la durée de vie de certains gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère ont des durées de vie qui sont à peu près comparables à la durée de vie des déchets radioactifs. Et là, on voit bien que l'on est sur des échelles de temps que l'on ne peut pas appréhender sereinement. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante, qu'on en a parlé de ces énergies, c'est qu'on voit les énergies fossiles et principalement le pétrole, on voit bien que ce ne sont pas des énergies pacifiques. Et finalement, on a un peu la même représentation pacifique par rapport aux guerres, les guerres du pétrole.
Elles sont au cœur de très nombreux conflits, pour ne pas dire tous.
Elles sont, voilà, je pense qu'on pourrait même dire que derrière chaque guerre au XXe siècle, ils cherchaient le pétrole, cherchaient l'appropriation des ressources fossiles. Et je pense que l'énergie nucléaire nous renvoie aussi à cette idée de mort, à cette idée d'insécurité. Et les autres énergies renouvelables, quand on pense à l'éolien, au solaire, à l'hydraulique, ou même, on n'a pas parlé de la méthanisation, les biodéchets, eh bien là, on voit qu'on est dans une dimension finalement beaucoup plus pacifique, décentralisée.
Reste que tout le monde n'est pas encore convaincu de la nécessité d'abandonner les énergies fossiles, à en croire les déclarations récentes d'un certain Donald Trump.
Nous allons retirer toutes les restrictions sur la production américaine d'énergie. On va sauver l'industrie du charbon, croyez-moi, j'adore les mineurs.
Donald Trump, président des États-Unis, qui s'exprimait ainsi en janvier dernier. Je voyais votre regard un petit peu atterré, Pierre Papon. Il y a du boulot encore pour faire passer dans les mentalités auprès des décideurs qu'il faut passer à autre chose. Il est temps.
Il y a beaucoup de travail à faire. L'opinion publique mondiale est sans doute convaincue qu'il faut faire cette transition énergétique, mais on voit que les dirigeants sont encore réticents. Je dirais quand même bonne nouvelle pour répondre à Monsieur Trump. J'ai lu que la municipalité de Pékin a pris la décision de fermer la seule centrale à charbon restant, disons, près de Pékin. Ils en ont d'autres sans doute dans la campagne, si je puis dire, parce que ils ont des problèmes environnementaux colossaux et ils passent du charbon au gaz naturel. Oui. Et ça, je crois que c'est un coup de chapeau qu'il faut donner pendant Monsieur Trump, pour sans doute prendre l'exemple sur ses amis de Pékin.
Sur ses amis de Pékin. Oui. Il s'est rapproché récemment du président chinois. Si les politiques et les milieux économiques n'arrivent pas à s'entendre, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, Geneviève Ferron-Creuset?
Alors, ce qu'on peut faire, nous, citoyens, c'est effectivement, on peut faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, le citoyen, il donne aussi son vote pour être représenté politiquement, pour qu'il y ait des rapports de force, qu'ils s'inversent. Et en revenant à M. Trump, je pense que l'opinion publique américaine, notamment dans les grandes villes, est à peu près acquise à ces sujets. Si vous allez en Californie, je pense que M. Trump est un extraterrestre. Mais il y a quand même... les citoyens ne peuvent pas tout faire s'il n'y a pas un cadre politique qui leur permet d'engager, de s'engager de façon durable et stable et d'avoir une forme de lisibilité dans l'avenir. Je m'entends, les subventions aux énergies photovoltaïques, alors à un moment donné, tout le monde allait équiper son toit de panneaux photovoltaïques et puis tout d'un coup, patatrac, le tarif de rachat s'écroule. Mmh. Et puis, on nous promet la voiture électrique et puis ce n'est pas aussi simple. Et puis, quelles sont les aides pour isoler mon logement? Est-ce que je peux compter sur des subventions pour refaire ma toiture? Donc, il faut quand même un cadre réglementaire relativement clair et lisible pour que les citoyens s'engagent. Et puis surtout, il faudrait qu'on parle un petit peu plus d'éducation à l'environnement, d'éducation à ces questions du changement climatique. Et je pense que peut-être on arriverait à lutter contre des personnalités telles que M. Trump. Et moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas M. Trump. Je pense que si la Chine et Xi Jinping se retiraient de l'accord de Paris, alors là, je commencerais à être inquiète. Parce que je pense que la clé de l'avenir climatique, maintenant, il est plus dans la main des Chinois que des Américains.
Mmh. Pierre Papon, pour conclure, vous êtes confiant, inquiet?
Je suis relativement confiant. Il va falloir faire du travail de persuasion encore. Mais aussi, je reprends ma casquette d'ancien chercheur, il faut investir sur l'avenir, pour l'avenir, faire de la recherche. Ça nécessite des investissements, ça nécessite des chercheurs, des jeunes en particulier.
On ne les fait pas encore assez, ces investissements.
Pas assez, au niveau mondial comme au niveau français.
Mmh. Quels sont les plus en pointe? Quels sont les pays qui investissent le plus?
Le Japon investit le plus. Même avant Fukushima, ils investissaient le plus. Les crédits publics, c'était les premiers au monde, du moins dans les pays développés de l'OCDE, pour la recherche publique dans le domaine de l'énergie.
Merci Geneviève Ferron-Creuset et
merci.
Pierre Papon. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Geneviève Ferron-Creuset, Le crépuscule fossile chez Stock. Pierre Papon, 2050, Quelles énergies pour nos enfants, aux éditions Le Pommier. Dans un instant, la campagne officielle des élections présidentielles avec les messages des 11 candidats. Et puis après le flash de 15h, Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles.